RCF.
Bonjour à tous, je suis Johanna Rivière, spécialiste des relations humaines et des dynamiques collectives. J'interviens aujourd'hui dans le cadre de l'émission Polychrome pour s'épanouir au travail. Cette semaine, nous explorons un sujet qui questionne de plus en plus de monde, le projet professionnel. Comment construire un projet aligné avec ses aspirations tout en développant son employabilité ? C'est la question à laquelle nous allons répondre avec Amandine Born, consultante en management des compétences. Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission.
Polychrome pour s'épanouir au travail, présenté par Johanna Rivière sur RCF Alsace.
Bonjour Amandine, merci d'avoir répondu à mon invitation. Ensemble, nous allons explorer comment chacun d'entre nous peut devenir acteur de son projet professionnel. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vous propose de vous présenter en quelques mots.
Bonjour Johanna, je vous remercie pour l'invitation. Je suis consultante en management des compétences. Ma mission principale, c'est de conseiller et d'accompagner les entreprises dans la structuration de leurs ressources humaines. Je suis donc amenée à accompagner les personnes dans leurs projets professionnels.
Pour commencer, il me semble important que l'on revienne sur la notion de projet professionnel. Pourriez-vous nous redéfinir ce terme et nous expliquer en quoi il vous semble important aujourd'hui ?
Alors, le projet professionnel, c'est une démarche qui est planifiée, elle est également structurée et elle vise à définir des objectifs professionnels. En fait, le projet professionnel, ça implique une réflexion qui va être approfondie sur les aspirations personnelles, les compétences, les intérêts et également les valeurs professionnelles. Alors, le projet professionnel, il guide les choix de formation, les expériences professionnelles, les opportunités de développement personnel pour aligner les emplois avec les ambitions et les objectifs à long terme de l'individu. Le terme de projet professionnel pourrait aussi être remplacé par carrière, mais ce mot est de moins en moins utilisé au regard des réorientations dans les parcours.
En effet, les carrières, on pouvait en parler il y a un certain nombre d'années, mais aujourd'hui, on a beaucoup de bifurcations dans nos parcours professionnels. Et Amandine, tiens, quel point d'attention nous pouvons garder à l'esprit quand on se lance dans une démarche de questionnement professionnel ?
Alors souvent, on a tendance à partir d'un métier pour voir si ça pourrait nous plaire. Et en fait, il est plutôt recommandé de partir de soi, de ses envies, de ses aspirations et aussi d'une analyse de la situation actuelle et du parcours professionnel déjà réalisé. Alors vous pouvez commencer par vous demander qu'est-ce qui vous motive à entreprendre cette démarche. Est-ce que c'est plutôt une insatisfaction au travail? Est-ce que c'est un désir de nouvelles compétences? Une meilleure qualité de vie? Ou bien est-ce une démarche subie, c'est-à-dire suite à la fin par exemple d'un contrat? Et puis il est aussi important d'identifier le temps à disposition. Est-ce que je suis dans l'urgence? Combien d'heures par semaine je peux consacrer à ce projet? Et quelle place également j'accorde à mes proches dans ce projet, notamment si ce projet a un impact sur votre vie personnelle? Est-ce que je réalise cette démarche de façon autonome ou est-ce que je souhaite me faire accompagner? En résumé, une reconversion professionnelle doit être abordée de manière structurée et réfléchie, en tenant compte de tous les aspects, qu'ils soient personnels, professionnels, financiers. Et une planification rigoureuse et un accompagnement adéquat augmentent vos chances de succès dans cette démarche qui est ambitieuse.
S'engager dans une démarche de réflexion de projet professionnel, c'est donc prendre ou reprendre en main son avenir et en se posant les bonnes questions, tout en tenant en compte des impacts sur sa vie personnelle, si je comprends bien.
Tout à fait.
Je suppose que pour se lancer dans cette démarche, il y a différentes temporalités. Par quoi devons-nous commencer, Amandine ?
Alors l'idée c'est de démarrer par un état des lieux et pour réaliser cet état des lieux il existe plusieurs outils. Mon préféré c'est l'Ikigai.
L'Ikigai, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet outil et sur ce drôle de nom ?
Alors l'Ikigai c'est un concept japonais qui signifie littéralement raison d'être. Et l'Ikigai représente la convergence de quatre éléments fondamentaux. Le premier c'est ce que vous aimez, vos passions. Le deuxième ce pourquoi vous êtes doué à votre mission. Le troisième, ce pourquoi vous pouvez être payé, la partie professionnelle. Et le quatrième élément, c'est ce dont le monde a besoin, la vocation. Alors par exemple, dans mon Ikigai à moi, en termes de passion, j'aime écouter, j'aime échanger, j'aime rencontrer nouvelles personnes. Je suis douée pour écouter, pour faire rire. Je peux être payée pour écouter, conseiller. Et le monde a besoin qu'on améliore les environnements de travail pour plus d'épanouissement professionnel. Et le métier que je fais aujourd'hui répond à ces quatre points. Il y en aurait d'autres, par exemple, comme psychologue, qui correspond d'ailleurs à mon cursus universitaire.
En quoi travailler sur sa raison d'être, ou en tout cas réfléchir sur sa raison d'être, vous semble-t-il pertinent aujourd'hui ?
Alors en fait, trouver son ikigai, sa raison d'être, sa mission de vie, c'est considéré comme une voie vers une vie épanouie et satisfaisante, parce que ça vous permet d'aligner vos activités quotidiennes avec vos valeurs et vos aspirations profondes. Et en milieu professionnel, l'ikigai va permettre en fait de vous guider dans vos choix professionnels, qui non seulement répondent à vos compétences et à vos intérêts, mais aussi apportent une contribution positive à la société, tout en étant financièrement viable.
Auriez-vous peut-être d'autres outils au-delà de l'Ikigai à conseiller à nos auditeurs ?
Alors effectivement, je vous ai dit, l'Ikigai, c'est mon outil préféré, mais il existe bien évidemment d'autres outils, comme par exemple les tests de personnalité, le MBTI ou le Big Five, qui permet d'identifier les traits de personnalité, les motivations et les compétences transférables, ou même le portfolio de compétences, qui est un document qui reprend toutes vos expériences professionnelles et de formation. Et pour le réaliser, on passe en revue toutes nos expériences. Et ça peut être un très bon support pour l'introspection et la mise en avant des compétences acquises au cours de votre vie professionnelle.
Merci pour ces éclairages. Je retiens que dans cette démarche de réflexion sur son projet professionnel, il est important de commencer par se questionner sur ses passions, ses envies et ses besoins. Et pour cela, vous nous avez proposé d'explorer notamment l'Ikigai, un outil qui permet de trouver à la fois plus de sens et de plaisir dans son travail.
Why can't I
Polychrome, pour s'épanouir au travail, RCF Alsace.
Nous sommes de retour sur RCF en présence d'Amandine Born. Nous explorons les possibilités d'être acteur de son projet professionnel. Nous venons de parler de l'ikigai, un outil qui aide à choisir sa voie en fonction de ses aptitudes et de ses envies. Cette première étape permet de faire un point sur soi et ses aspirations. Pour continuer cette démarche, que pouvons-nous entreprendre, Amandine ?
Alors après l'état des lieux qui permet d'identifier ce que vous aimez, vos passions, ce pourquoi vous êtes doué, la mission, ce pourquoi vous pouvez être payé au niveau professionnel et ce dont le monde a besoin, eh bien l'idée ça va être d'identifier des métiers qui peuvent vous correspondre et vous allez pouvoir construire un plan d'action, c'est-à-dire des pistes professionnelles que vous allez explorer pour valider des choix de métier.
Pour explorer ces choix de métier, comme vous venez de le dire, quels outils sont à notre disposition et comment on peut s'assurer que ces métiers correspondent bien à ce que l'on pourrait faire ?
Alors une fois que vous avez défini des métiers qui peuvent répondre à votre ikigai, vous allez pouvoir approfondir votre connaissance de ces métiers à l'aide de divers outils. Il y a par exemple les fiches ROM, comme la ville, le répertoire opérationnel métier-emploi, que vous pouvez retrouver sur le site internet de France Travail. Il y a également les fiches métiers que vous pouvez retrouver sur le site de l'ONICEP. Ou même, vous pouvez également réaliser des enquêtes métiers en allant à la rencontre de professionnels en poste.
Ce qui m'interroge dans ce que vous dites, c'est que ces enquêtes métiers, qui c'est que je peux aller voir comme professionnel ? Est-ce que ces personnes sont accessibles et où je les trouve ?
Alors, comment faire pour trouver des professionnels qui vont être ouverts et disponibles? Eh ben, déjà, vous pouvez commencer par solliciter votre entourage, votre réseau personnel ou votre réseau professionnel. On a tous un ami d'un ami qui exerce. LinkedIn aussi, le réseau social professionnel par expérience, par excellence même, peut-être aussi un levier pour trouver des professionnels. Et puis sinon, il existe des sites internet spécialisés comme le site My Job Glasses qui vous permet d'entrer en contact avec des professionnels. Et ces derniers sont inscrits parce qu'en fait, ils souhaitent partager leur expérience. Ils seront donc disponibles plus rapidement. Et sur ce type de site, vous avez accès aussi à un annuaire qui vous permet d'entrer en contact et de convenir d'un rendez-vous téléphonique en visio ou physique. D'ailleurs, par exemple, moi, je suis inscrite sur ce site My Job Glasses.
Très bien. Donc, si on veut du coup devenir consultante en management des compétences, on n'a plus qu'à aller sur My Job Glasses et essayer de vous trouver comme mentor, c'est ça ?
En tout cas, pour réaliser une enquête métier, tout à fait.
Je comprends l'enjeu de cette phase du coup de questionnement, à la fois introspectif, mais aussi des questionnements pour se rendre compte de la réalité d'un métier. Mais je me demande en quoi, selon vous, est-ce une phase critique ? De l'approfondissement d'un projet professionnel.
Alors en fait, l'approfondissement de la connaissance des métiers, ça va vous permettre de confirmer des choix professionnels et surtout d'avoir une vision qui n'est pas seulement focalisée sur du court terme. Le déploiement de votre projet professionnel, qui est la troisième étape, peut nécessiter des investissements en temps, en argent, et il est primordial que vous sachiez où vous allez pour maintenir la motivation et surtout favoriser votre employabilité, notamment dans le cas de transition professionnelle qu'on appelle aussi des réorientations.
Dans cette démarche de réorientation ou de transition professionnelle, comme vous les nommez, est-ce que il est important de se faire accompagner ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Parce que j'entends beaucoup de personnes dire, effectivement, je n'y arriverai pas tout seul.
Alors, dans cette démarche de construction du projet professionnel, bien évidemment, il est recommandé de vous faire accompagner. L'ikigai, dont on parlait tout à l'heure, c'est un outil très intéressant, très puissant, mais il n'est pas toujours évident à aborder seul. L'exploration des métiers est complexe aussi, on peut se sentir noyé tellement il existe de possibilités. Et en fait, dans cette démarche de construction du projet professionnel, il est possible de bénéficier d'un accompagnement individuel grâce à différents dispositifs.
Intéressant, des dispositifs, mais de quoi on parle quand vous parlez, vous, de dispositifs ? Qu'est-ce qu'il y a à ma disposition ?
Alors, deux dispositifs peuvent vous intéresser, le CEP et le bilan de compétences. Alors, le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, c'est un dispositif d'accompagnement personnalisé et gratuit qui est destiné d'ailleurs à tous les actifs, qu'ils soient salariés, indépendants ou demandeurs d'emploi. Et il vise à aider les individus à faire le point sur leur situation professionnelle, à définir et à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle adapté aux compétences, aspirations et au marché du travail.
Et comment savoir si je suis éligible à ce dispositif ?
Eh bien, ce dispositif est accessible à tous les actifs, quel que soit leur statut. Donc, vous êtes d'emblée éligible.
Et donc, si je veux me projeter et me rendre compte de quoi il s'agit, comment est-ce que vous pourriez peut-être m'expliquer de quelle manière cela se déroule ?
Alors en fait, le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, c'est un accompagnement personnalisé qui va permettre de travailler trois axes. Un, deux ou les trois axes, en fonction de vos besoins. Le premier axe, c'est le bilan professionnel. C'est une évaluation des compétences, des qualifications et des aspirations. Le deuxième axe, c'est l'information et le conseil, notamment sur les formations, sur les métiers, sur les secteurs d'activité et les dispositifs de financement. Et puis le troisième axe, c'est le soutien à la mise en œuvre, notamment aider à la réalisation du projet professionnel, y compris l'accès à la formation et aux dispositifs de reconversion.
Si je souhaite m'engager vers ce dispositif de conseil en évolution professionnelle, à qui dois-je m'adresser ?
Alors le CEP est délivré par différents opérateurs. On va retrouver les opérateurs régionaux type France Travail, l'APEC, Cap Emploi, les missions locales. Et on va avoir également des opérateurs désignés par les régions dans le cadre de la gestion de leurs compétences de développement économique. Ce sont en fait des opérateurs qui ont répondu à un appel à projet et que vous pouvez retrouver bien évidemment sur le site du CEP.
Parfait, bah je suis outillée si je suis auditeur en souhaitant agir sur mon projet professionnel. Et vous parliez aussi d'un deuxième outil, notamment le bilan de compétences, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, le bilan de compétences est un dispositif d'accompagnement individuel qui permet de mieux comprendre ses propres compétences et aspirations et d'élaborer un plan d'action pour une évolution ou une reconversion professionnelle réussie.
Et concrètement, dans cet outil-là, comment ça se passe ?
Alors en fait, vous allez avoir différentes étapes dans le bilan de compétences. Vous avez d'abord une phase préliminaire qui permet l'analyse de la demande et des besoins du bénéficiaire. La deuxième phase, c'est une phase d'investigation pour identifier les compétences et aptitudes personnelles et professionnelles et de déterminer les motivations. Et une phase de conclusion, donc qui permet l'élaboration du projet professionnel ou de formation.
Et dans ce cadre, qui c'est qui pourrait m'accompagner ?
Alors, vous pouvez rechercher un centre de bilan de compétences accrédité par l'État, sur la plateforme par exemple Mon Compte Formation du CPF, qui va vous permettre d'accéder à une liste de prestataires agréés. Dans tous les cas, je vous invite à vérifier les qualifications et les expériences, et surtout à rencontrer la personne qui sera amenée à conduire votre bilan. Parce que, comme vous avez pu le constater, il s'agit d'une démarche personnelle, parfois proche de l'intime. Il est donc important de se sentir en confiance. Et puis bien évidemment, vous pouvez en parler autour de vous. Il y a sûrement déjà quelqu'un qui a fait un bilan de compétences et qui sera ravi de vous partager les coordonnées du prestataire. Et concernant le coût de ces deux dispositifs, le bilan de compétences peut être financé par le compte personnel de formation, le CPF, par votre employeur ou par France Travail. Le CEP, quant à lui, est gratuit. Vous n'aurez donc rien à payer. Bring me down, can't know.
Polychrome, pour s'épanouir au travail, RCF Alsace.
On poursuit notre discussion avec Amandine Born sur la thématique du projet professionnel. Amandine, vous nous avez parlé des étapes de construction du projet professionnel, ainsi que des dispositifs qui peuvent être mobilisés dans le cadre d'une démarche individuelle.
En effet, nous avons parlé des acteurs qui peuvent accompagner la construction du projet professionnel dans le cadre du CEP, le Conseil en évolution professionnelle, et du bilan de compétences. Alors, cette démarche, elle est souvent à l'initiative de l'individu, mais ça peut également se faire en entreprise.
Intéressant. Ce que vous nous dites là, c'est que je peux réfléchir à mon projet professionnel dans le cadre de mon emploi actuel.
En effet, on associe souvent la réflexion sur le projet professionnel à la notion de reconversion professionnelle. Mais on peut aussi mener cette réflexion lorsqu'on est en poste, tout simplement pour faire le point ou pour envisager les possibilités d'évolution au sein de son entreprise.
Si je veux en parler au sein de mon entreprise, comment puis-je aborder le sujet ?
Alors, vous pouvez aborder le sujet avec votre manager, avec le service RH, notamment dans le cadre de l'entretien professionnel.
Et au niveau de l'entreprise, il me semble qu'il existe aussi des obligations pour l'employeur d'accompagner ses collaborateurs dans leur parcours professionnel.
Justement, l'entretien professionnel, c'est un dispositif réglementaire en France qui vise à permettre aux salariés et à leur employeur de co-construire le projet professionnel dans ou à l'extérieur de l'entreprise. Cet entretien est entré en vigueur en 2015 et il est obligatoire tous les 2 ans ou après un retour suite à une longue absence. Et tous les 6 ans, vous allez avoir un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié qui doit être réalisé. Cet entretien professionnel y remplace également l'entretien de seconde partie de carrière.
C'est très clair. Effectivement, c'est aussi du coup un outil intéressant qui peut être exploité par la personne en quête de réflexion. Mais dans l'entreprise, qui mène cet entretien ?
Alors cet entretien, il peut être réalisé en interne par votre manager, par le service RH, mais il peut être réalisé en externe, notamment pour garantir la confidentialité et la neutralité. C'est parfois plus simple aussi de se confier à une personne extérieure. C'est d'ailleurs ce que je constate quand des entreprises me sollicitent pour que je mène ces entretiens. Dans tous les cas, quelle que soit la personne qui va mener l'entretien professionnel va permettre à l'entreprise de construire son plan de formation, qu'on appelle maintenant le plan de développement des compétences, et donc de poursuivre le développement des compétences de ses collaborateurs. Et attention, cet entretien, il est souvent confondu avec l'entretien annuel d'évaluation, qui est lui davantage axé sur l'évaluation de la performance du salarié. Là, on n'est pas sur la performance, mais bien sur la notion de projet professionnel.
Effectivement, ce que vous dites est très juste. Pour accompagner de nombreux managers dans l'exercice de mener des entretiens, l'entretien professionnel est souvent confondu avec l'entretien annuel, ce qui amène la confusion chez l'individu et une difficulté de pouvoir piloter les parcours professionnels de chaque collaborateur.
Tout à fait.
Et est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu le déroulement de cet entretien professionnel ?
Alors en fait, cet entretien, il va aborder différents points, notamment le point sur les compétences et les aspirations du salarié, l'identification des besoins en formation et le développement professionnel, les perspectives d'évolution au sein de l'entreprise ou en externe, et puis des informations sur des dispositifs de formation type validation des acquis et de l'expérience, la VAE, et le bilan de compétences. En tout cas, en général, votre entreprise, elle vous transmet une grille de préparation qui vous permet de démarrer la réflexion et de pouvoir approfondir le jour de l'entretien.
Ça me fait penser, du coup, que ces entretiens sont aussi très importants pour le développement des compétences en entreprise et pour aider un collaborateur à développer ses compétences. Forcément, développer ses compétences fait partie, du coup, intégrante de la démarche de parcours professionnel et d'évolution professionnelle. Et on parle de plus en plus d'obsolescence des compétences lorsqu'une compétence détenue par un salarié est dépassée ou n'est insuffisante pour faire face, du coup, à un emploi. Et notamment, il me semble que j'avais noté qu'une compétence métier ou une compétence technique aujourd'hui a une obsolescence de durée de vie, on pourrait dire, de 18 mois. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors en fait, c'est pas parce qu'on est compétent un jour qu'on est compétent toujours. Notamment dans le cadre du projet professionnel, des fois on se dit ben finalement il n'y a pas d'évolution, j'ai pas envie de changer de métier, donc j'ai pas besoin de développer des compétences. En fait, il peut toujours y avoir des évolutions dans les pratiques professionnelles. Si on prend le cas par exemple de métiers qui sont assez anciens, dactylographe qui aujourd'hui n'existe plus, c'était la secrétaire d'autrefois qui travaillait sur la machine à écrire. Il y a eu une évolution technologique qui l'a amené à passer de la machine à écrire à l'ordinateur. Même si c'est le même métier, il y a des évolutions dans le poste de travail qui ont nécessité un accompagnement en termes de développement des compétences. Et à l'époque, le passage de la machine à écrire à l'ordinateur, ça a été une révolution. Plus proche de nous, toujours pour ce même métier, on pourrait aussi parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle. En quoi l'utilisation de ChatGPT, de Copilot, amène à une évolution du métier de secrétaire. Et donc, même si je suis au même poste de travail, eh bien, je vais avoir des changements dans mes pratiques professionnelles qui vont, par exemple, nécessiter de me former, de poursuivre le développement de mes compétences pour éviter l'obsolescence de mes compétences.
Oui, en effet, l'usage des nouvelles technologies, notamment de l'intelligence artificielle générative, demande de développer de nouvelles compétences et des compétences plus orientées soft skills ou savoir-être, comme on le dit souvent. L'entreprise a donc ici, on le voit, un fort enjeu en termes d'accompagnement de ses collaborateurs dans leurs projets professionnels et plus particulièrement dans le développement de leurs compétences. Amandine, nous arrivons à la fin de cette émission. Est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots l'enjeu de devenir acteur de son projet professionnel?
Donc, comme on a dit, le projet professionnel, c'est une démarche qui est construite, qui est structurée avec d'abord un état des lieux. Ensuite, ça va permettre de trouver des métiers, d'aller explorer ces métiers. Et ensuite, on va pouvoir mettre en œuvre, déployer ce projet. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que sans projet professionnel clairement défini, le collaborateur ou l'individu risque une perte de sens au travail et un amoindrissement de son épanouissement professionnel et personnel. Et cette démarche, on l'a dit, hein, elle peut être faite seule, mais elle peut être également, on peut être également accompagné, quel que soit son statut, que ce soit à l'aide du CEP, du Conseil en évolution professionnelle, ou du bilan de compétences. Et ce n'est pas parce qu'on est en poste de travail qu'on n'a pas besoin de réfléchir sur son projet professionnel. Puisqu'on a vu que les pratiques professionnelles évoluent régulièrement, les pratiques, les outils, et donc que ça nécessite aussi une réflexion sur ses compétences, sur ses aspirations pour toujours être aligné.
Merci Amandine pour vos apports éclairants qui nous montrent que nous pouvons tous, à notre façon, être acteurs de notre projet professionnel. Un grand merci à vous pour votre écoute. Et si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site internet rcf.fr en choisissant RCF Alsace. Merci à Théo Giandoni pour la partie technique de ce jour. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Polychrome pour s'épanouir au travail.